À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Monster Hunter Rise. On aura un point sur les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une petite news concernant le jeu New Pokémon Snap. On aura ensuite une news technologie avec un sac à dos équipé d'une intelligence artificielle qui guide les malvoyants dans la rue. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le jeu Monster Hunter Rise ou Monster Hunter Raizu en japonais. Donc c'est un jeu vidéo d'action RPG jouable de 1 à 4 joueurs, développé et édité par Capcom. Et il est sorti le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, en sachant qu'une version Microsoft Windows est prévue pour début 2022. Situé dans une région inédite inspirée du Japon féodal, cet opus introduit des monstres jamais vus, dont le monstre phare Magna Malo, de nouvelles possibilités de gameplay avec le philoptère qui permet d'effectuer des manœuvres aériennes, ainsi que le Chumsky, un compagnon canin qui peut servir de monture. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 18 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 8 sur 10 de la part de Gamekult. Entouré d'une nouvelle aura après le succès mondial de l'épisode World et de son extension Iceborne, la franchise Monster Hunter revient avec Monster Hunter Rise. En attendant la version PC prévue pour début 2022, c'est d'abord sur Nintendo Switch que ce nouvel opus fait son entrée, ravivant le plaisir de la chasse seul ou à plusieurs, en local comme en ligne. Un retour sur console portable naturel pour cette licence aux multiples déclinaisons, d'abord popularisée sur PSP et 3DS, qui continue de moderniser et peaufiner sa formule en la rendant plus limpide et accueillante, sans oublier d'apporter du sang neuf. Avec le philoptère et le Chumsky, Capcom donne un nouvel élan à un gameplay plus dynamique et fluide que jamais, qui devrait vous accrocher pendant plus d'une centaine d'heures. Donc bien se préparer dans le hub, choisir une quête, puis partir sur le terrain avant de revenir la sacoche pleine de ressources pour améliorer son équipement et vaincre des mastodontes de plus en plus coriaces, telle est la routine du chasseur. Les joueurs Nintendo Switch ont déjà pu l'expérimenter grâce à Monster Hunter Generations Ultimate, un épisode best-of au contenu débordant qui représente l'aboutissement de la formule classique de la franchise, connue pour sa richesse, aussi bien côté gameplay que contenu, ainsi que son exigence. Avec Monster Hunter World, Capcom a entamé une cinquième génération de jeux Monster Hunter qui entend simplifier la vie des chasseurs et rendre certains mécanismes de jeu moins cryptiques, sans pour autant chambouler ce concept basé sur le farm qui a fait ses preuves. Zone ouverte sans temps de chargement, possibilité d'accéder au campement depuis n'importe quel endroit de la carte et d'y changer d'équipement, menu radial pour utiliser rapidement un objet dans le feu de l'action, affichage des dégâts, présentation claire et détaillée des équipements chez le forgeron, liste de souhaits pour suivre la progression de la récolte des matériaux nécessaires à leur confection, les améliorations de confort ont été nombreuses. Mis en chantier en 2016, soit avant la sortie de son prédécesseur, Monster Hunter Rise poursuit sur cette lancée et compte bien marquer la série de son empreinte. Donc il faut savoir où l'on met les pieds avec Monster Hunter, ne vous attendez pas à un scénario étoffé ou à un jeu qui vous prend par la main tout du long. Monster Hunter Rise ne déroge pas à la règle et sert une histoire réduite au strict minimum, faisant office de prétexte pour aller abattre des monstres par dizaines. Ici, le fil rouge est le retour d'une catastrophe appelée la Calamité. Une jolie cinématique d'introduction nous plonge dans l'ambiance japonisante du village de Kamura, avant de nous lancer directement dans le bain aux commandes d'un avatar personnalisable fraîchement nommé Chasseur. Monster Hunter Rise ne se perd pas en dialogue interminable, avec seulement quelques cinématiques qui viennent ponctuer les moments clés de l'aventure, pour se concentrer sur l'essentiel, la chasse. Donc soyez prévenus, les premiers pas sont délicats pour les néophytes, après un enchaînement de dialogues présentant les principales mécaniques et une poignée de quêtes tutorielles, il faudra prendre le temps de consulter le guide en jeu, fourmillant d'informations pratiques, et faire un tour dans l'aire d'entraînement, enrichi en options. Ne serait-ce que pour appréhender tranquillement les 14 catégories d'armes du jeu, qui représentent autant de styles de jeu différents à maîtriser, et trouver celles qui vous conviennent. Entre le marteau, les lames doubles, la grande épée, la lance, l'arc et des concepts plus atypiques comme l'insectoglaive, la corne de chasse et la volto-hache, il y en a pour tous les goûts. Et si la prise en main un peu lourde et la lenteur de certaines armes ont de quoi refroidir, attendez de voir les nouvelles possibilités offertes par le philoptère. Monster Hunter 4 avait déjà apporté de la verticalité au gameplay en permettant notamment de réaliser des attaques sautées et de chevaucher les monstres. Monster Hunter Rise va bien plus loin avec le phylloptère, un insecte grappin qui ajoute toute une panoplie d'actions de déplacement et d'attaques soumises à un court temps de recharge. Par une simple combinaison de touches, il permet de se propulser rapidement dans n'importe quelle direction pour ensuite enchaîner avec une attaque aérienne, courir sur un mur ou se balancer en l'air. Plus spacieuses et verticales que jamais, les cartes ont été conçues pour exploiter cette liberté de mouvement inédite qui procure des sensations grisantes pour rendre l'exploration plus agréable et participer à donner un nouveau rythme aux chasses. Alors que Monster Hunter World tentait d'instaurer une dimension track avec les traces à suivre et les navicioles, Monster Hunter Rise indique dès le départ la position des grands monstres sur la mini-carte. En choisissant de partir en quête accompagné d'un Chumsky, un nouveau compagnon canin que l'on peut chevaucher pour traverser la carte sans se soucier de la jauge d'endurance, il est possible d'atteindre sa proie en quelques instants pour plonger dans le vif du sujet sans tarder. La récolte des ressources se fait naturellement en chemin sans trop perdre de temps, tout comme l'obtention des avantages conférés par la faune locale, dont on peut aussi très bien se passer. Ce qui fait le charme des jeux Monster Hunter, c'est tout le côté préparation d'une chasse, donc choix des objets consommables à emporter et d'une arme adaptée pour exploiter la faiblesse du monstre, passage à la cantine pour obtenir diverses améliorations temporaires grâce à un bon repas. Monster Hunter Rise ajoute à tout cela une couche de préparation directement depuis le terrain avec la faune locale. Chaque environnement est peuplé de petits oiseaux colorés que l'on peut attraper en vol afin d'obtenir des boosts de vie, d'endurance, d'attaque et de défense, liés à un nouvel équipement pendant toute la durée d'une quête. Toute une variété de petites créatures peuvent aussi être capturées et utilisées en tant qu'objets, comme la cendrelette, qui répand un gaz attirant les monstres, et les scarabées que l'on peut lancer pour infliger des fléaux élémentaires. Le joueur peut ainsi défier sa proie en étant mieux préparé que jamais, ou choisir d'ignorer tout cela pour une expérience plus corsée. Le gameplay de Monster Hunter a toujours nécessité précision et timing, laissant une marge de progression énorme. Une erreur de positionnement, une action lancée au mauvais moment, et le chaos est vite arrivé. Grâce au phylloptère, le joueur a de nouvelles options pour fondre sur sa cible lorsqu'une ouverture se présente, ou se repositionner rapidement avec la phylochute, une précieuse esquive que l'on peut déclencher après avoir reçu un coup, pour s'éloigner et se soigner dans un coin ou retourner au cœur de l'action. Les armes les plus lourdes gagnent en dynamisme et les plus légères en fluidité. D'autant qu'elles bénéficient toutes de nouveaux coups uniques liés au phylloptère, qui apportent une couche de technicité supplémentaire avec par exemple des attaques sautées et de puissants contres à utiliser au bon moment. Maîtriser le tout demande du temps, mais s'avère très gratifiant. Pour rendre la courbe d'apprentissage plus douce, Capcom a décidé de structurer le jeu en deux parties, comme dans les opus pré-Monster Hunter World. Uniquement jouable en solo, les quêtes du village sont idéales pour assimiler les mécaniques et faire ses premières chasses. Elles sont classées par étoiles selon leur niveau de difficulté, avec un certain nombre de quêtes clés à compléter pour passer à l'échelon supérieur. Donc pas de panique, les quêtes de récolte et de chasse aux petits monstres sans grand intérêt ne sont pas imposées, hormis quelques-unes au tout début. La difficulté est volontairement faible, sans doute un peu trop, dans cette partie du jeu qui fait office de gros tutoriel, surtout qu'elle se limite aux quêtes novices. Le véritable défi se trouve dans le grand camp, la partie jouable jusqu'à 4 joueurs, qui comprend à la fois les quêtes novices et experts, ces dernières réservant des versions plus coriaces des monstres et de meilleures récompenses. Donc pour éviter les redites, Capcom a eu la bonne idée d'intégrer des raccourcis. Progresser dans le village vous fera débloquer à certains moments des quêtes spéciales qui permettent de passer les premiers rangs du grand camp. Donc ainsi, après avoir complété le village, vous aurez accès aux quêtes experts du grand camp, même si vous n'y avez jamais mis les pieds au préalable. Une progression fluide, sans nécessité de fermer des heures et des heures pour avancer sans encombre. Par ailleurs, le nombre de matériaux nécessaires à la confection de certains équipements est plus faible que par le passé, un ajustement appréciable qui permet d'expérimenter plus facilement certains types d'armes et de builds. N'espérez pas non plus obtenir un stuff surpuissant après une simple chasse, certaines pièces nécessitent toujours ces gemmes, rubis et autres plaques, dont le taux d'obtention est inférieur à 5%. Il est parfaitement possible de découvrir l'intégralité de Monster Hunter Rise en solitaire. La difficulté dans le grand camp est toujours optimisée selon le nombre de joueurs et elle s'adapte automatiquement lorsqu'un chasseur quitte ou rejoint une quête. A l'inverse, jouer uniquement en multi vous fera simplement manquer les quelques cinématiques du premier arc scénaristique dédié au monstre phare Magna Malo. La chasse prend évidemment une toute autre saveur à plusieurs. Monster Hunter Rise marque non seulement le retour appréciable du multi en local sans fil, mais offre également un multi en ligne souple. Donc pour créer ou trouver un lobby ou rejoindre quelqu'un de sa liste d'amis, il suffit de s'adresser à un PNJ dans le village. Sinon, le raccourci panneau des quêtes, accessible via la nouvelle barre d'action personnalisable dans laquelle on navigue grâce aux touches directionnelles, permet de rejoindre directement une quête en cours, aléatoire ou au choix. Un système similaire aux fusées de détresse de Monster Hunter World est également disponible. Si vous êtes en difficulté lors d'une chasse, vous pouvez à tout moment appeler d'autres joueurs à votre secours en passant par le menu. J'en profite pour souligner les efforts d'ergonomie et la simplicité de naviguer dans le village de Kamura, dont les services sont proches les uns des autres. Une fonction voyage rapide permet même de passer d'un point clé à un autre en un clin d'œil, sachant qu'il est aussi possible d'utiliser le philoptère et le chumski pour se déplacer. En multi, les joueurs peuvent évoluer en ville sans avoir besoin de se regrouper dans une zone spéciale, mais les interactions restent limitées en l'absence d'un chat vocal intégré. Il faut se contenter d'un chat écrit avec des phrases prédéfinies, des emotes et des stickers qui n'invoquent pas la plus grande des convivialités. En ligne droite, un habitué de la licence pourra arriver au dernier boss en une trentaine d'heures, mais la durée de vie d'un Monster Hunter est loin de se résumer à son histoire. La variété du gameplay et le plaisir qu'il procure, la progression personnelle constante, la collection des nombreuses armes et armures, l'optimisation de son équipement, voici ce qui tient en haleine les joueurs sur plusieurs centaines d'heures. Au cœur de tout cela, le bestiaire. Monster Hunter Rise réunit 34 grands monstres, dont 11 totalement inédits. Les nouveaux venus sont particulièrement réussis, tant dans leur design inspiré des créatures surnaturelles du folklore nippon, que leur comportement. Mention spéciale à la mère araignée Ragna Kadaki, au féroce Goss Arag et ses bras qu'il transforme en lames gelées, ou encore à l'espiègle Bichaten qui prend un malin plaisir à nous balancer des fruits en plein visage. Le casting est suffisant pour assurer une bonne variété d'équipements et d'affrontements entre les différents types de wyvernes volantes ou non, les léviathans et les bêtes accros. Des monstres charismatiques aux mouvements variés qu'il faudra apprendre à anticiper, comme toujours accompagné de thèmes musicaux soignés combinant instruments traditionnels japonais et chœurs. En résulte de superbes réarrangements tels que celui du traditionnel Proof of Hero ou le thème du Mizutsune, et de nouvelles pistes au souffle épique comme celle du Magna Malo. Mais certains manques restent à combler dans ce bestiaire, notamment du côté des dragons anciens, les monstres les plus puissants de la série. Le plus déroutant est l'absence de défis ou quêtes supplémentaires après avoir vaincu le boss final. Le rang de chasseur maximum est fixé à 7 et il ne sera débloqué qu'avec l'arrivée d'une mise à jour fin avril qui ajoutera plusieurs monstres, dont le bien connu Camellios de Monster Hunter 2. D'ici là, certains joueurs resteront sans doute sur leur faim face au manque de challenge à haut niveau, mais Capcom compte faire vivre Monster Hunter Rise avec des ajouts de contenu réguliers, comme ce qu'a connu Monster Hunter World. Les quêtes de rangée représentent le plus haut niveau de difficulté de Monster Hunter, mais elles sont traditionnellement réservées aux opus estampillés Ultimate. Dans Monster Hunter World, elles ont fait leur apparition un an et demi après la sortie du jeu avec l'extension Iceborne, sous l'appellation Rang Maître. Monster Hunter Rise devrait donc logiquement avoir droit au même traitement, mais Capcom n'a encore rien confirmé à ce sujet. En plus des quêtes de chasse classiques, un autre type de contenu inédit devrait occuper les joueurs sur le long terme, les quêtes calamités en lien avec le contexte scénaristique du jeu. Donc accessibles assez tôt dans l'aventure, elles prennent place dans une zone dédiée dont il faut défendre les portes face à des vagues successives de monstres. Pour ce faire, il faut installer des balistes, des canons et autres machines de chasse sur des emplacements dédiés, avec la possibilité de les contrôler soi-même ou de laisser les villageois s'en charger, mais aussi foncer directement dans la mêlée pour attaquer avec sa bonne vieille arme. Un gong à faire retentir permet de booster considérablement nos dégâts pendant un temps limité, et donc de rivaliser face aux monstres qui nous assaillent. Certains nous ciblent directement, d'autres préfèrent détruire les machines de défense ou foncer directement sur les portes, obligeant donc à rester sur le qui-vive. Un concept étonnamment prenant et plaisant à jouer, avec une difficulté bien dosée et de belles récompenses. Des matériaux de monstres variés, mais aussi des tickets défenseurs. Donc c'est aussi le seul moyen d'affronter les monstres supérieurs, des versions plus puissantes de certaines créatures dotées de nouvelles capacités. Il est toutefois regrettable qu'il n'en existe que 3 à l'heure actuelle, et qu'on ne puisse pas les défier dans une chasse classique. Chaque pièce d'équipement inclut un ou plusieurs talents, donc si vous équipez plusieurs pièces avec le même talent, son effet sera augmenté. Pour optimiser au mieux votre chasseur selon votre style de jeu, il faut donc choisir judicieusement la composition de son set d'armure, sachant qu'il est tout à fait possible de mélanger des pièces issues de différents monstres. Pour compléter le tout, des joyaux et des talismans confèrent également des talents. Dans cet opus, les joyaux sont fabricables chez le forgeron, tandis que les talismans sont créés avec une part d'aléatoire chez le marchand en lui donnant des matériaux de monstre ou des tickets défenseurs. Autre possibilité de personnalisation, les talents de substitution qui se débloquent au fil de la progression. Chaque arme en possède 3, 2 qui permettent de changer certaines attaques de base et une attaque lien de soi alternative. Pas de quoi changer radicalement le gameplay d'une arme, mais cela permet de varier un peu le style de jeu. Les quêtes calamités sont également idéales pour exploiter la mécanique de chevaucher qui profite d'une évolution permettant de créer des situations émergentes. Il est désormais possible de contrôler les monstres pendant un temps limité en les affaiblissant grâce aux attaques avec le phylloptère, en les laissant s'affronter entre eux ou en utilisant l'araignée poupée, une créature de la faune locale. Une fois sur le dos de votre cible, les options sont multiples. Vous pouvez la projeter contre un mur pour lui infliger de lourds dégâts et la faire tomber, ou encore l'utiliser pour amener un second monstre à l'état de monture, chevaucher ce dernier et attaquer votre cible initiale. Attirer un monstre vers un autre peut ainsi créer des situations chaotiques et jouissives, sachant que les guerres de territoire de Monster Hunter World sont de retour. Monster Hunter Rise n'a finalement pas grand-chose à envier à Monster Hunter World, si ce n'est sur le plan graphique. Ses environnements paraissent bien plus ternes et sont logiquement moins foisonnants. Certaines textures font un peu tache, mais le rendu global est d'une propreté rarement vue sur Switch, que ce soit en mode portable ou télé, avec en prime des temps de chargement très courts. Le framerate vacille parfois lorsqu'il y a une surcharge d'effets à l'écran, mais il reste stable dans la plupart des situations, y compris quand les monstres se déchaînent lors des quêtes calamités. Une optimisation remarquable de la part de Capcom qui a mené un long travail pour adapter son moteur propriétaire RE Engine et faire les bons compromis. La firme a également pensé à intégrer la visée au gyroscope, la possibilité de faire pause pendant une quête, ainsi que des options pour paramétrer l'interface bien chargée de base, ainsi que la caméra. Donc pour résumer les points positifs, on a un casting de nouveaux monstres très réussi, un gameplay grisant plus fluide et dynamique que jamais grâce au phylloptère, un arsenal varié avec des possibilités de build à foison, le multijoueur qui est souple et simple d'utilisation, le Chumsky, un nouveau compagnon bien utile, les 4 calamités, un ajout fun qui apporte de la variété, des améliorations de confort et d'ergonomie, on a un jeu techniquement solide et une bande-son de qualité. Pour les points négatifs, on a donc de nouveaux monstres très réussis dans le casting, mais un casting qui aurait quand même toutefois mérité d'être plus garni. On n'a pas de réel contenu endgame avant la première mise à jour et un manque de challenge pour les habitués de la licence. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une chanson extraite de l'OST du jeu Monster Hunter Rise, c'est Ibushitem, et on reviendra juste après.
Thank you.
Donc c'était le thème Ibushi, une chanson extraite de l'OST du jeu Monster Hunter Rise. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch, on a alors en 5e place Mario Kart 8 Deluxe, un jeu de Nintendo. En 4e place Ring Fit Adventure, un jeu de Nintendo. En 3e place c'est Monster Hunter Rise, l'édition Collector, un jeu de Capcom. En 2e place Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est Monster Hunter Rise, un jeu de Capcom. Le top 3 pour la PS5, on a en 3e place Assassin's Creed Valhalla. En 2e place, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Et en première place, Spider-Man Miles Morales. Pour la Xbox Series X, on a en 3e place Call of Duty Black Ops Cold War. En 2e place, It Takes Two. Et en première place, Assassin's Creed Valhalla. Le top 3 pour la PS4, on a en 3e place Spider-Man Miles Morales, en 2e place The Last of Us Part 2 et en 1ère place FIFA 21. Pour la Xbox One, on a en 3e place Forza Horizon 4, en 2e place Call of Duty Black Ops Cold War et en 1ère place FIFA 21. Le top 3 Nintendo 3DS, on a en 3e place Mario Kart 7, en 2e place The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Et en première place, Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo Select. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place FIFA 21, en deuxième place Football Manager 2021, et en première place Microsoft Flight Simulator. On passe maintenant à la news jeux vidéo. New Pokémon Snap reprend le principe du Safari Photo de Pokémon Snap qui était paru sur Nintendo 64, mais le déplace dans la région de Lentis. The Pokémon Company a publié une vidéo dévoilant la diversité des environnements que vous croiserez dans la région. Vidéo à retrouver sur internet si ça vous intéresse. Lentis est un archipel composé de différents écosystèmes, comme on peut le voir dans la vidéo. Donc des forêts sombres et brumeuses, des plages paradisiaques, des déserts, des jungles, des environnements sous-marins. Lentis proposera un tout nouveau décor comparé à l'île volcanique de l'Opus sur Nintendo 64. Donc dans la vidéo, on aperçoit également le professeur Miroir et son assistante Rita, ainsi que le véhicule qui vous servira de transport au sein des îles de Lentis, le Neowan. Évidemment, qui dit Pokémon Snap dit Appa, et la région regorge de pommes tendres de Lentis qui vous permettront d'attirer les Pokémon au bon endroit pour en tirer le meilleur cliché. Cette nouvelle vidéo est également l'occasion d'observer le phénomène Lumina, qui reste bien mystérieux et sur lequel vous devrez enquêter au cours du jeu. Donc pour rappel, New Pokémon Snap sortira sur Nintendo Switch le 30 avril prochain. C'est un jeu développé par Bandai Namco et édité par The Pokémon Company ainsi que Nintendo. On passe maintenant à la news technologie. La société dans laquelle nous vivons est, de bien des manières, peu adaptée aux personnes atteintes d'infirmités comme la déficience visuelle. Heureusement, de nombreux efforts sont déployés pour faciliter l'inclusion des personnes malvoyantes et c'est le cas de ce sac à dos équipé d'une intelligence artificielle qui peut servir de guide aux personnes qui ont des problèmes de vue assez graves. De manière générale, les personnes aveugles ou malvoyantes comptent sur des cannes de marche ou des chiens guides pour les aider à naviguer dans le monde. Cependant, un chercheur en intelligence a mis au point un autre outil prometteur pour les aider, un sac à dos, un gilet et un sac banane équipé d'un appareil qui utilise une intelligence artificielle et d'une caméra qui observe leur environnement et guide donc le porteur en fonction de ce qui est détecté par ces appareils. Plus précisément, le sac à dos créé par le développeur Jagadish Mahendran est équipé de plusieurs outils que l'on peut facilement trouver sur le marché. Donc en effet, le prototype développé comprend un sac à dos ordinaire contenant un ordinateur portable Lenovo Yoga équipé d'un processeur Core i7 et de 8 Go de RAM. Le rôle de l'ordinateur est de lancer l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les données visuelles collectées. Pour la collecte d'images, l'ordinateur portable est connecté à une caméra spatiale Luxonis OAC-D qui peut suivre des objets via 3 caméras et détecter des objets à longue distance. La caméra sera notamment placée sur le gilet au niveau de la poitrine. Un GPS est également ajouté à l'ensemble ainsi qu'une batterie qui permet au prototype d'avoir une autonomie d'environ 8 heures. C'est notamment cette batterie qui est rangée dans le sac banane qui accompagne le sac à dos. Voilà. Les sacs bananes vont revenir à la mode du coup. Enfin, le prototype est également équipé d'écouteurs Bluetooth qui permettent à l'utilisateur d'écouter les informations données par l'intelligence artificielle. Ainsi, le propriétaire peut être informé qu'il y a des obstacles de différentes formes, tailles et types. Il peut aussi savoir où il se trouve précisément par rapport à un objet en utilisant des descripteurs spatiaux tels que devant, en haut, en bas, à gauche, à droite et au centre. Autrement dit, le sac à dos peut annoncer quand un panneau d'arrêt est devant l'utilisateur ou quand il est sur le point d'emprunter un passage pour piétons. Le prototype peut également avertir quand il y a des obstacles entrants comme des poteaux, des fils et des feuilles d'arbres et dire dans quelle direction il faut aller pour éviter un accident. Pour l'instant, ce sac à dos n'est qu'un prototype et il n'a pas encore été testé par une personne malvoyante. Quoi qu'il en soit, l'idée est innovante et a beaucoup de potentiel. Afin d'accélérer l'accès à la technologie, Mahindran et son équipe ont rendu le projet non commercial et open source. L'un des principaux défis que l'équipe veut absolument relever concerne le poids et le prix de l'appareil. Pour l'instant, le prototype reste inabordable et peu pratique pour les utilisateurs, a notamment déclaré Mahindran à Forbes. Quant à ce qui a inspiré le développeur dans la création de ce sac à dos, il a expliqué qu'il trouvait que c'était de son devoir de venir en aide aux personnes malvoyantes, dans la mesure où il avait la capacité et la technologie nécessaires pour le faire. Donc, je cite « L'année dernière, lorsque j'ai rencontré un ami malvoyant, j'ai été frappé par l'ironie du fait que, alors que j'enseignais aux robots à voir, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir et qui ont besoin d'aide », donc a déclaré Mahindran dans un communiqué. Donc voilà, à voir comment tout ça va évoluer. On va finir maintenant l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu 3 sorties aujourd'hui vendredi 9 avril avec Say No More sur PC, Switch et iOS, Hopeless Dregs sur PC et Katja's Abyss Tactics sur PC et sur Mac. On aura une sortie pour lundi 12 avril sur PC avec Nigate Tail, 2 sorties pour mardi 13 avril avec Demon's Skin sur PC et Kung Fu Kickball sur PC. On aura ensuite des sorties pour mercredi 14 avril avec Tasomachi Beyond the Twilight sur PC, Kingdom of Arcadia sur PS5, Xbox Series et Switch, et Knight Squad 2 sur PC, Nintendo Switch et Xbox One. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 15 avril avec Saga Frontier sur PC, Nintendo Switch et PS4, Stitchy in Tooki Trouble sur Switch, Godstrike sur PC et Nintendo Switch, Hush Walkers A Survival Journey sur PC. Et enfin, on aura Pocoyo Party qui sortira sur Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.